Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il y aurait dans chaque existence une expérience de l'égarement. C'est en partant de ce postulat que Jean Dève et Vincent Deck réalisent, en 1994, une série de 4 nuits magnétiques autour de ce thème de l'égarement dans toutes ses acceptions. En creux ou en négatif, cette série dessine le plan d'un labyrinthe aux contours changeants et même infinis. On pense à Borges, bien sûr, l'auteur argentin qui avait placé la figure du labyrinthe au cœur de son œuvre, et d'ailleurs cité par Colette Fellous dans l'introduction de cette émission. Dans le dédale sonore qui suit, vous reconnaîtrez peut-être des voix familières, notamment celle du philosophe et théoricien de l'urbanisme Paul Virilio, disparu en 2018. Paul Virilio, qui avait passé plusieurs années de sa vie à étudier les labyrinthes, des labyrinthes d'un genre particulier, les bunkers et les dédales de l'architecture militaire. Une architecture religieuse, selon lui, puisqu'elle procéderait d'une attente de la fin des temps. L'égarement, à en croire la philosophe Marie Depucet ou le psychiatre Marcel Germac, que vous entendrez aussi dans cette émission, c'est aussi la folie ou alors une altération du rapport au réel. Quand le monde ou la perception qu'on en a paraissent hostiles ou agressifs, les conditions d'un égarement sont bel et bien réunies. La peur est autour de la maison, c'est donc le premier épisode de cette série de 4 nuits magnétiques sur l'égarement, première diffusion de cette émission sur France Culture le 11 janvier 1994.
Nuit magnétique, bonsoir. Ça ressemblerait plutôt à un vertige, mais un vertige sculpté à même l'espace. Ça pourrait aussi ressembler à un tourbillon qui vous emporte à la fois le corps et la pensée, ou à un vent très bizarre qui n'existerait qu'à l'intérieur de la tête et qui bousculerait sur son chemin visage, frontières, mots et sentiments. Une espèce de typhon qui vous transformerait tantôt en grain de poussière, en atome, en étincelle, tantôt en géant immobile, paralysé au centre de ce qui pourrait prendre la forme d'une forêt, d'un labyrinthe, d'un océan, d'un souterrain, d'une voie lactée ou même d'une ville immense. Tous ces lieux qui semblent avoir été inventés pour que puisse précisément s'y faire l'expérience de l'égarement. L'égarement, ce mot que dérouleront toute cette semaine Jean Dève et Vincent Deck et qui guidera nos nuits magnétiques. L'égarement, c'est peut-être ce qui habite au fond de nous-mêmes, au fond de chacun de nous, même quand nous l'ignorons. C'est ce que nous frôlons parfois ou ce qui nous submerge tout à coup. C'est en tout cas, à y regarder de près, ce avec quoi nous devons nous débattre sans cesse. Débattre, dialoguer, méditer, réfléchir. Pour tenter de trouver à chaque fois une issue. Il y a d'ailleurs surtout cela dans la notion même d'égarement, la recherche permanente d'une sortie, d'un chemin qui nous mènerait à la clarté. Comme s'il fallait se souvenir qu'on devait toujours passer par la nuit pour retrouver le jour. Et puis, c'est à Borges aussi que je pense. Borges, quand il écrivait en 1941 sa bibliothèque de Babel. « Toi qui me lis, es-tu sûr, dit-il, de comprendre ma langue ? Je connais des districts où les jeunes gens se prosternent devant les livres et posent sur leurs pages de barbares baisers sans être capables d'en déchiffrer une seule lettre. Les épidémies, les discordes hérétiques, les pèlerinages qui dégénèrent inévitablement en brigandage ont décimé la population. Peut-être suis-je égaré par la vieillesse et la crainte, mais je soupçonne que l'espèce humaine est près de s'éteindre, tandis que la bibliothèque se perpétuera. » Éclairé, solitaire, infini, parfaitement immobile, armée de volumes précieux, inutiles, incorruptibles et secrètes. Je viens d'écrire « infini ». Je n'ai pas intercalé cet adjectif par entraînement rhétorique. Je dis qu'il n'est pas illogique de penser que le monde est infini. Le juger limité, c'est postuler qu'en quelque endroit reculé, les couloirs, les escaliers, les hexagones peuvent disparaître, ce qui est inconcevable et absurde. La bibliothèque est illimitée et périodique, et s'il y avait un voyageur éternel pour la traverser dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre, qui, répété, deviendrait un ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir. Nuit magnétique, toute cette semaine donc, l'égarement, Jean d'Ève, Vincent Deck. Ce soir, la peur est autour de la maison.
C'est un thème qui vous touche, l'égarement, Marie de Pusset.
Oui, je dirais que c'est d'abord un mot qui me touche. C'est un mot magnifique, parce que, évidemment, il y a le « et » qui dénoyote, le « et » qui arrache, et puis il y a les syllabes qui suivent, qui vous donnent, paradoxalement, comme le temps de se promener dedans, ou qui vous imposent plutôt le temps de l'égarement. Karma, c'est... sonorité. Alors, c'est un mot magnifique, terrible, et puis ce que j'aime tout de suite en lui, c'est que ça vous impose comme un temps pour marcher dedans, de même qu'il me semble que ça dessine, ce mot, tous les chemins dont il nomme la perte. Vous voyez, ça me fait penser à ces dessins du XVIe siècle, il y en a beaucoup, d'homme, un corps d'homme, et vers le centre imaginaire du corps de l'homme, je ne sais pas si c'est son foie ou son sexe, converge une série de droites, tous les sens. Alors, c'est d'abord ça que j'aime dans l'égarement. C'est que si vous avez égaré vos lunettes, vous n'êtes pas dans la mauvaise voie, il n'y en a pas de bonne. Vous allez faire peut-être 10 fois le chemin, le même, un autre, mais vous en ferez beaucoup, vous marcherez beaucoup.
Pour photographier.
Oui, je crois. Hein, je crois pour faire les photos personnelles, oui, telles qu'on les pratique.
La géographie est une femme.
Fidèle. Ah, alors il y a l'égarement aussi de ce côté-là. S'égarer, c'est-à-dire se laisser aller à s'égarer avec quelqu'un d'autre. Hein? Est-ce que l'amour peut être un égarement? Ça, je peux pas répondre. Je peux pas répondre, parce que moi, ma vie est tellement simple. C'est vrai, de ce côté-là, c'est pas compliqué. Il doit y avoir plein d'autres égarements.
Je reviens au bouger, quand même.
Oui.
Le trembler, le bouger.
Ça pourrait être utilisé comme métaphore de l'égarement. De la même manière que on pourrait dire que Rimbaud tremblait dans son âme d'écriture. C'est un léger mouvement, mais il faut, pour que ce soit un égarement, il faut avoir même cette intention. Moi, je ne l'ai pas.
Pourtant, ça tremble chez vous. Alors, ouais. C'est dans le regard ou c'est dans la main?
Non, c'est dans la lumière. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le temps passe. Et peut-être c'est le passage du temps qui permet de s'égarer.
Selon vous, l'égarement est le départ d'une construction?
c'est le départ d'une construction, pas vraiment pour moi. C'est le départ d'un incessant, de quelque chose d'incessant, plutôt. C'est plus lié à l'incessant, justement, de toutes ces...
Et d'un incessant qui se fait, qui se défait, ou qui défait l'architecture.
Oui, comme je crois qu'il se fait, qu'il se défait en permanence. Hein. Ça se refait parce que ça s'est défait, justement. Oui, si vous me posez cette question-là, en termes d'espace, ce serait plutôt ça. Mais c'est curieux, c'est un lieu qui est plutôt lié au chemin. Vous voyez, par exemple, c'est plutôt lié au fait... J'ai envie de vous dire aussi, l'égarement, c'est un privilège de vivant. Par exemple, Dante, au début de l'enfer, au milieu du chemin, il dit la voie droite était, je prononce mal l'italien, égarée, Samaritain. Je ne pense pas que les damnés soient égarés, par exemple, parce qu'ils sont sur les rails de la douleur, ils sont très occupés, comme les fous. Est égaré le vivant qui essaie de s'en approcher. Donc c'est plutôt de ce côté-là, un curieux privilège de vivant. Et puis, après je m'arrêterai là, c'est un privilège de vivant curieux, parce que c'est quand même une forme une réponse à une forme de damnation, je crois, l'égarement chez un vivant. On perd ses lunettes souvent parce que l'existence vous persécute. Il faut comprendre ses lunettes pour aller là, par exemple. Alors on y va, on revient, on traverse. Et plutôt qu'à une construction, bah, c'est curieux, l'égarement, c'est lié à une espèce de palpitation. Alors, je vous dirais une palpitation de la vie contre la destruction de l'existence. Ça va jusqu'à la palpitation du cœur.
Paul Virilio, est-ce que l'égarement a quelque chose à voir avec le combat ?
Oui, parce que tromper sur l'objet, sur le sujet, sur le trajet, est à la base de l'affrontement. Affronter, c'est esquiver les coups de l'adversaire. Chaque combat est à la fois offensive et défensive. Et donc, égarer l'adversaire, c'est parer ses coups. C'est esquiver. En boxe, dans l'art pugilistique, l'essentiel du boxeur, du combattant, c'est l'esquive. Celui qui prend tous les coups, même s'il a une force de frappe extraordinaire, ne sera jamais un grand combattant dans l'art pugilistique.
Est-ce que selon vous, il y aurait des constructions de l'égarement ? Je pense par exemple à la forteresse, à la maison, au bunker, à la tour.
Au labyrinthe.
Au labyrinthe.
Toutes les architectures militaires sont des architectures labyrinthiques. Si on regarde les architectures militaires proto-historiques, on s'aperçoit que ce sont des labyrinthes puisqu'on ne peut pas construire beaucoup. Ce sont des mottes de terre, ce sont des talus avec une petite tour au milieu, pas très haute, souvent en bois. Or, l'organisation est faite, et ça c'est très intéressant, pour que l'homme ne puisse pas masquer son côté gauche. Le bouclier est dans la main gauche et l'épée est dans la main droite. Il faut donc pouvoir blesser l'homme là où il n'a pas le bouclier, c'est-à-dire à droite. Donc, tout le parcours qui mène à la pénétration dans la tour centrale est fait pour exposer le flanc droit, celui qui n'est pas couvert par le bouclier et qui tient l'épée ou la hache. C'est donc extraordinairement intéressant parce que c'est un labyrinthe dans lequel on se perd, mais dans lequel on s'expose en même temps. Les deux à la fois.
Qu'est-ce qui vous a poussé à mener cette enquête à propos des bunkers ?
C'est d'abord ma jeunesse. Je suis un enfant de la guerre. Je suis né en 32. Le nazisme, c'est 33. La guerre, c'est 39-40. Donc, c'est ma mémoire de jeunesse. J'ai vécu cette guerre totale comme un phénomène cosmique. Un gosse de 10 ans vit les bombardements aériens et j'en ai vécu de rudes à Nantes. D'une manière cosmique, c'est-à-dire pour moi c'était une apocalypse, la ville écrasée, les milliers de morts, etc. Après la guerre, d'abord j'ai eu envie d'aller à la mer. Je rappelle qu'à Nantes on n'avait pas le droit d'aller à Saint-Nazaire, la côte était interdite, Et donc, mon premier voyage, c'était à une heure de Nantes, même pas, en vélo un peu plus, entre Nantes et Saint-Nazaire, ça a été d'aller découvrir la mer. Et en découvrant la mer, j'ai découvert les bunkers, qui étaient abandonnés. Il y avait encore des casques, il y avait encore des périscopes, il y avait encore des chaises, il y avait même parfois des vieilles rations. Et donc j'ai découvert, ce qui est toujours une découverte extraordinaire, l'horizon marin, en même temps que les bunkers du mur de l'Atlantique. Et ça a été pour moi une sorte de preuve par neuf qu'il s'agissait d'une guerre totale. C'est-à-dire que le plus loin que j'aille, en longeant la côte, il y avait toujours un bunker. Et donc cette idée d'une guerre qui s'étendait à un continent entier m'a fasciné. Et bien sûr, pendant 10 ans, je suis parti à la découverte de ces objets énigmatiques comme les statues de l'île de Pâques.
Pose le labyrinthe au ciel. En reprenant la question de Boulder, qui est une vraie question stupéfiante, comment peut-on vivre sous le ciel ? C'est vrai que le ciel en a vu d'autres, il a vu les Mérovingiens, il a toujours les mêmes nuages. Alors comment est-ce qu'on va prétendre s'accrocher à son petit morceau de vie, ses amours, sa carrière, sous le ciel ? Alors, évidemment, il y a des gens que ça ne va apparemment pas déranger. Ceux-là ne vont pas faire de labyrinthe. Et ils vont, par exemple, faire carrière, en oubliant ce qu'est le mot carrière. Alors, ceux-là, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure, parce qu'ils donnent le vertige. Mais justement, je crois que ce qu'ils oublient, c'est qu'on est mortel. Alors, les autres, ils sont peut-être égarés dans... Peut-être dans ce que vous appelez des labyrinthes, dans la mesure où on passe et on repasse toujours par le même chemin.
Votre expérience de la Borde était celle de l'égarement ou du labyrinthe ou bien d'un labyrinthe sans parois ? Il y a une cabane dans votre livre.
Oui, il y a une cabane. Il y a une cabane qui m'a été construite par mon père sur le vœu de ma mère au bout de plusieurs années, comme un lieu de repos. Ce lieu est sur la périphérie de la Borde. C'est important. Il est derrière le mur du jardin abandonné. Il est à la distance nécessaire pour qu'on entende la cloche qui appelle au repas, parce qu'à mon avis, la régularité des heures, une cloche, c'est une réponse très douce à l'égarement. Donc j'ai voulu entendre cette cloche, et en même temps, peut-être, parce que je ne peux me tenir aussi que sur des lieux périphériques, en tout cas, je mettais un lien, c'est un lieu doux. Alors vous me demandez si la Borde, ça a été un lieu d'égarement pour moi. Je crois que si je m'y suis arrêtée, c'est sans doute parce que l'égarement était reconnu, recueilli, pris en compte, on commençait par là. Et je préfère le mot égarement au mot égaré. Le mot égaré, c'est une violence, hein, de dire quelqu'un qui est égaré. Mais c'est vrai que l'égarement était... On commençait là, et il allait y avoir les heures que j'appelle épiques, enfin, la régularité des heures, et la création, le paradoxe. Alors ça, je dirais que, par exemple, ceux qui ont fait la Borde étaient des constructeurs, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils ont... essayer de construire ce qu'ils appellent des lieux d'existence pour des gens qui étaient dans l'égarement, qui passaient, qui repassaient par des chemins différents, dont il était peu probable justement qu'ils puissent retrouver des lieux d'existence. Et ils ont mis un acharnement de constructeurs. Alors pour rejoindre ce que vous disiez sur les labyrinthes, ce qui est fait et défait... Hein, il faut toujours maintenir la loi de la précarité pour construire des lieux où puissent se tenir un petit peu des gens qui sont dans l'égarement.
Marcel Tchermin, est-ce qu'il y aurait une sorte d'éthique dans l'égarement ? Est-ce qu'il y aurait, pour l'égaré qui s'égare dans l'égarement, une forme de connaissance sauvage ?
Je suis très étonné de votre question, parce que elle s'adresse à un praticien. Donc, je peux répondre que de cette place-là... Si je ne me trompe pas, étymologiquement, l'égarement, c'est sortir du bon chemin ou du droit chemin. Et ce qui est curieux, c'est que dans notre clinique, nous avons un terme qui s'appelle délirer et qui signifie la même chose. Délirer, ça signifie sortir du sillon. Or, je me suis rendu compte au fil des années que où je mettais délire, où je mettais égarement. Et que pour ce qui me concernait, ce n'était pas du tout la même chose. En d'autres termes, quand on délire, c'est quelque chose d'extrêmement spécifié, alors que sortir du chemin, perdre ses repères, se paumer, ça n'a rien de spécifique. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons, depuis 24 heures, j'ai très peu dormi et... Je sens évidemment que mes repères ne sont pas tout à fait ceux que j'ai ordinairement et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'ils soient mis en difficulté.
L'égaré, celui qui choisit l'égarement, s'égare pour lui-même, mais est-ce qu'il ne s'égare pas aussi pour l'autre, qui ne sait pas, lui, qui n'a pas de repères dans l'égarement ?
Vous démarrez... en imputant à l'égaré une intentionnalité. Il choisit l'égarement. On peut également s'égarer tout simplement, sans aucun choix, parce que, pour autant que notre réalité soit ordonnée par un certain nombre de repères fixes, qui sont ceux de notre fantasme, et c'est ça notre réalité, il suffit que quoi que ce soit dans la vie nous déplace un tout petit peu, c'est-à-dire que nous changions notre angle de visée, pour que nous ne puissions plus reconnaître le terrain. Est-ce que c'est un choix ? Ça se produit en amour. Une femme qui quitte un homme qui quitte une femme, et le monde n'est plus ce qu'il est. Donc, j'ai beaucoup de mal à considérer qu'on puisse choisir d'être un égaré, sauf... à considérer qu'il y a des gens qui donnent le sentiment d'être des égarés alors qu'ils ne le sont en aucun cas, mais ils apparaissent comme tels pour ceux qui les regardent. Quand j'écris dans un certificat, dans une observation égarement, cela ne préjuge jamais de quelque qualification clinique que ce soit. Jamais. C'est-à-dire que ça met complètement en suspens toute discrimination clinique, ça ne fait qu'indiquer que c'est quelqu'un qui, soit pour lui-même, est dans un état de flottaison, soit qui, à mes yeux, m'apparaît dans un état de flottaison, encore que je n'en sois pas si sûr. Il m'est arrivé de rencontrer des gens qui justement, avaient à mes yeux tout à fait l'air d'être des égarés et qui me faisaient danser de la meilleure façon du monde.
Thank you.
pas les malades ou les patients?
Oui. Je dis les fous. J'ai pas beaucoup hésité avant de dire ça. Je pense que le mot malade a été d'une part une façon d'évacuer la belle question que pouvait nous poser, par exemple, l'égarement. Un malade, on le soigne, on lui donne des médicaments. Et que maintenant, je sais pas, 20 ans après la mode de l'antipsychiatrie, etc., le mot malade est une forme d'extermination comme une autre, afin de nettoyage, vous voyez. Ils sont malades, qui restent là où ils sont, et qu'on leur donne des médicaments. En plus, le fou évite d'employer à propos de ces malades, qui sont effectivement malades, des diagnostics. Je préfère dire fou plutôt que maniaco-dépressif ou psychotique, de quel droit? En plus, le diagnostic est un verdict qui, quand il n'est pas essayé de façon précaire par un psychiatre, me paraît relever de la violence.
Alors, vous, que faisiez-vous par rapport aux fous qui, eux, avaient sans doute certains repères qui n'étaient pas forcément les vôtres?
Dans
la construction d'une journée.
Oui, dans la construction d'une journée. Mais vous savez, j'ai fait spontanément, quand je suis arrivée, ce que ma mère, qui m'avait bien élevée, m'avait appris à faire quand j'arrivais quelque part. J'ai aidé. Vous savez, quand vous êtes invité à déjeuner, vous demandez si vous pouvez aider pour débarrasser. Donc, dans la mesure où tout de suite, peut-être qu'il faut quand même être un peu honnête, j'ai dû avoir l'impression l'égarement on peut dire que l'égarement qui habitait ma vie, ma petite vie de jeune fille de 20 ans, trouvait cet égarement-là aussi, dans la borde, un repos et un lieu. Donc, dans cette mesure, c'était la moindre des choses d'aider. Dans la mesure aussi où les fous qui perçoivent très très facilement, très rapidement, le fait qu'ils ont affaire ou non à ce que Houry appelle des normopathes, un jeu dans sa bouche. Il y a les fous, puis il y a les normopathes. Ils avaient très vite perçu que j'étais pas vraiment une normopathe. Donc c'est pourquoi une pensionnaire m'a dit, vous, mon petit, ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Elle est allée en somme au devant de ce que j'aurais pu demander, de prendre un torchon. Donc j'ai gardé le torchon, puis j'ai aidé, et ma fonction, heureusement, n'avait pas de nom encore. J'étais la première stagiaire qui n'avait pas de nom. Donc j'ai fait le ménage, la vaisselle, j'ai même fait des permanences, distribué les médicaments. Voilà, donc ça me donnait une place, vous voyez, d'aider. Et puis, comme j'avais pas d'étiquette, de nom, de fonction, ça me permettait de me tenir à côté d'eux sans que le fait que je fasse le ménage soit grave. Vous voyez, c'était une des choses, donc je pouvais voisiner avec eux. Par exemple, ils me disaient, à moi, ce qu'ils disaient à personne d'autre, les fous qui étaient considérés comme violents, ils me disaient, Marie, si ça t'amuse, il y en a qui me disaient, je vais casser une douzaine de verres et 6 assiettes demain à 10h du matin. Je les lancerai du haut de l'escalier. Alors j'avais ce privilège-là. J'allais à 10h, je ne le disais à personne, et je regardais descendre les assiettes. Donc c'était assez, assez doux, il n'y avait pas de moment de violence, il y en a eu rarement.
Et votre connaissance de l'égarement de l'autre a pu aider, justement, apporter une certaine aide?
Je crois que c'est, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est, enfin, il faut distinguer deux temps. À la borde, c'est pas ma connaissance de l'égarement, je dirais c'est mon aptitude à l'égarement qui m'a permis d'apporter une certaine aide à l'autre. Plus tard dans ma vie, je crois que le voisinage avec l'égarement m'a aidé, m'a permis d'aider quelques autres. Alors dans ce premier temps, oui. C'est plutôt cette aptitude. Il y avait une vacance chez moi, je pense. Vous savez, quand vous parlez à un fou, bon, on peut l'appeler entre nous un psychotique, si on donne au psychotique, par exemple, le prix d'excellence de la folie. C'est celui qui va le plus loin. Alors, quelqu'un qui est en train de se poser des questions sur l'astrophysique des camemberts et qui se promène sur une pelouse. J'avais un ami comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment le rencontrer, enfin, croiser son chemin. Mais il me semble qu'on peut entrer dans sa promenade. Alors, je pouvais entrer Je crois qu'il vous voit très bien, en un point, conc, de la promenade. Il vous voit, et je pense qu'il ne faut pas être trop arrimé quand il vous voit. Sinon, si vous êtes trop arrimé par une série d'évidences dans un lieu, il se détournera. Vous ne pourrez pas vous promener avec vous. Donc je pense que j'étais assez décelée, vacante, et que je pouvais donc rejoindre le spécialiste de l'astrophysique des camemberts dans sa promenade sur la pelouse. Enfin, il savait qu'il était sur une pelouse, ça c'était pas sûr, mais dans sa promenade. Et ça, c'était un grand luxe pour moi. Et finalement, quelqu'un qui se promène comme ça finit par vous inclure, par vous parler comme si vous étiez un disciple, enfin celui qui se tait dans un dialogue. Donc c'est plutôt ça, je crois, qui m'a aidé. Pourquoi j'étais égarée, parce que je supportais très mal déjà, j'étais une petite sévrienne, je supportais déjà très mal ce que Kafka appelle faire l'homme-pont, vous savez, tendu entre deux rives, et la conviction avec laquelle tous ces mômes de 20 ans avaient commencé une thèse à la Bibliothèque nationale, en ayant l'air de ne pas savoir qu'il y avait la lumière dehors et qu'ils allaient mourir. Donc, il y avait un mouvement de répulsion, et je ne passais pas très bien mes examens, ça n'allait pas très bien. Et voilà, à l'école de Sèvres, qui était un bâtiment provisoire, c'est à ce moment-là que je suis arrivée à la Borde, je cherchais désespérément le sol. Hein, parce qu'il était provisoire depuis 30 ans, il l'est toujours, et je ne voyais pas très bien où était le sol, sur lequel avait planté l'herbe et les escaliers me paraissaient ni suspendus dans l'air, ni à une distance du sol, ce qui fait que je ne pouvais rien faire, même pas lire, sauf m'asseoir. Je pense qu'une des réponses, quand on est trop égaré dans la lumière, c'est de se mettre le corps quelque part, de se prendre un bain, pardon, un bain aussi, c'est une réponse, de se prendre un banc, de s'asseoir par terre, et je me suis toujours très facilement assise par terre. Donc je passais mon temps à l'école normale supérieure à m'asseoir par terre, ce qui n'était pas très satisfaisant pour la direction. Et quand je suis arrivée à la Borde, j'ai eu beaucoup moins besoin de m'asseoir par terre. Promener un petit peu avec les gens. Vous dites qui passent effectivement quelquefois par le même chemin.
Bernard Plessu, comment essayer de montrer, de photographier l'égarement, ou par exemple un labyrinthe?
C'est pas facile. En ce qui me concerne, l'égarement, il faut savoir si ça a une connotation positive ou négative de s'égarer déjà. Parce que l'égarement, ça peut être tout simplement de ficher le camp, de prendre la route, de s'égarer. Et il n'y a pas de hasard. Quand on s'égare sur la route, c'est exprès, c'est pas par hasard, je crois. Hein, se perdre, c'est un moment de liberté. Et le contraire de l'égarement, c'est le mur. C'est-à-dire le cauchemar, on se réveille et on était face à un mur.
Thank you. Il y a un paysage lié au bunker. Il y a le sable, la plage, la mer, l'horizon, le ciel.
Oui, c'est le lieu où tout s'échange. La terre et l'eau, le ciel, la terre et l'eau, et puis aussi le Finistère, et puis aussi, bien sûr, l'attente. Quand on est devant la mer, on est comme devant l'horizon, on attend ce qui vient. Ce qui vient, c'est au loin une voile, ce qui vient, c'est le débarquement, et les bunkers sont des figures de l'attente. La plupart des bunkers que j'ai découverts dans un premier temps n'ont servi à rien, puisque le débarquement a eu lieu en Normandie et que les bunkers que je repérais se trouvaient dans les environs de Saint-Nazaire, de Douarnenez, etc. Et donc c'était des figures de l'attente. Figures de l'attente qui ont été reprises par tous les grands écrivains. Je pense à Julien Gracq dans Un balcon en forêt. Je pense à Buzzati pour le désert des Tartares. Et donc l'architecture militaire, pour moi, a une dimension religieuse. Elle attend la fin du monde, elle attend l'apocalypse. Et elle se confond avec la dimension mythique de l'architecture religieuse. Donc pour moi, c'était des objets emblématiques d'une angoisse que j'avais ressentie dans ma jeunesse, qui m'avait terrorisé. Et donc j'allais à la rencontre de ces objets que je ne connaissais pas et qui me permettaient d'une certaine façon de conjurer cette angoisse que j'avais eue pendant 4 ans.
Le mur de l'Atlantique serait l'idée du dernier labyrinthe ?
Oui, d'autant plus que c'est une des dernières architectures de surface. À partir de là, les architectures vont s'enterrer. Il y a un mouvement d'enfouissement, un peu comme le crabe qui s'enfouit dans le sable, de l'architecture militaire. D'abord, elle s'érige verticalement avec des donjons comme celui de Coucy, de 60 mètres de haut, ce qui est géant pour le Moyen-Âge. Et ensuite, elle va s'abaisser, je pense au fort de Sals, qui est un magnifique fort, avec l'artillerie, parce que ça ne sert à rien d'avoir des remparts très hauts. Il faut plutôt avoir des redoutes et des structures très basses pour éviter de recevoir les obus, les projectiles. Et le mur de l'Atlantique sera la dernière structure visible. La plupart des bunkers par la suite, y compris ceux de Saddam Hussein, sont enterrés, y compris le centre de commandement de l'armée américaine enfoui sous les montagnes rocheuses et qui commandait le Strategic Air Command. Donc c'est le dernier labyrinthe visible.
Vous êtes perdu, égaré au Mexique. Ça a été votre saison en enfer ?
Oui, disons que c'était pas une saison en enfer, c'était une saison au paradis. Non, je me suis égaré géographiquement, donc physiquement, donc tout. Mais c'était un égarement de bonheur, à nouveau. C'était pas un égarement dramatique. C'était le plaisir de s'égarer. Et tout oublié. Il m'est même arrivé un soir de voir deux Français et ils me racontaient ce qu'ils avaient vu au Mexique et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Je ne comprenais plus ma langue, donc j'avais dû beaucoup m'égarer.
Peut-être que l'égarement nous indique, pour autant qu'habituellement nous ne donnions pas le sentiment d'être des égarés, ce qui est habituellement plutôt faux, que nous sommes des gens parfaitement réglés par un fléchage signifiant qui est tel qu'il nous porte comme sur des rails, tout en l'ignorant, donc nous sommes en quelque sorte en pilotage automatique, et que ce pilotage automatique, nous le méconnaissons totalement. Et il suffit que dans ce pilotage automatique, quelque chose vienne à être battu en brèche, mis en défaut, pour que nous donnions le sentiment d'être des égarés. Mais non, est-ce que nous étions moins égarés en étant en pilotage automatique?
Pourquoi est-ce que l'homme a eu l'idée de projeter un labyrinthe autour de lui, depuis toujours?
Oui. Mais il n'est pas impensable que nous ayons eu, avant d'en avoir justement la notion nette, il n'est peut-être pas impensable que nous ayons eu, non pas la perception, mais la perception, avec un A devant la P, que nous étions des animaux en pilotage automatique. Et que nous ne circulions jamais de façon indifférente. Conférer la question que chacun d'entre nous peut se poser, à savoir que, par exemple, contrairement à ce qui se dit, on n'apprend rien d'une erreur. Quand on a fait une erreur, c'est toujours la même qu'on répète. Alors à quoi ça tient? Quand on fait un acte manqué, c'est toujours le même type d'acte manqué. Quand on foire un amour, c'est toujours de la même façon et avec les mêmes personnes, dans les mêmes contextes, etc. Donc il y a là un type de régularité et de répétition qui peut nous suggérer qu'il y a quelque chose qui se produit chez nous et qui fait que nos modalités de rapport à l'autre sont relativement inertes, stéréotypées. Et donc, il est possible que de très longtemps, nous ayons perçu cela et que nous ayons l'intuition de quelque chose chez chacun d'entre nous de mathématique. Quand je dis mathématiques, c'est pas du tout, comment dire, métaphoriquement.
Observez-vous les causes de l'égarement chez les autres?
Je dirais pas les causes, je dirais j'ai envie d'employer le mot de style, le style de l'égarement. Vous savez, j'ai lu dans un journal il n'y a pas longtemps une phrase de Lacan, puisqu'on célèbre je ne sais pas quoi de lui, qui disait, ben oui, je suis un peu psychotique puisque j'ai une certaine rigueur et que les psychotiques ont de la rigueur. Donc je dirais plutôt que j'ai observé le style. J'ai observé aussi, alors si on revient à l'égarement, que c'était des gens qui n'acceptaient pas, et ça me touchait beaucoup, ça me touche toujours, d'être sur ce que Dante appelle la voie droite, mais je crois que ce qu'il appelle la voie droite, c'est parce que ce qui, dans notre vie à nous, est l'autoroute. Il y a beaucoup d'êtres humains qui acceptent d'être sur l'autoroute de l'existence. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils partent en vacances, arrimés en général par l'évidence que leur donne l'autre qui est à côté, qui a aussi une courroie de sécurité, des enfants derrière et des paquets. Bon. Alors, dans ces conditions-là, eh ben, avançons. Il m'a semblé que ces gens qui prenaient le risque de l'égarement étaient des gens qui se demandaient toujours, mais pourquoi ça a commencé, la route? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de recommencer un peu pour voir pourquoi, comment ça a commencé? Et je sais, j'ai passé 30 ans dans l'admiration de cette question, parce que c'est vrai que les fous ont toujours une question très douloureuse touchant la naissance. Et qu'on dit beaucoup trop vite que c'est parce qu'ils n'ont pas de rapport avec l'histoire de leurs parents qui se soucient d'Henri IV et de Louis XII. Je trouve ça extraordinaire, arriver à penser à Louis XII. Donc j'ai constaté que c'était des gens qui pouvaient se poser des questions sur Louis XII, qui se demandaient pourquoi et comment on avait commencé alors que les autres continuaient. Plus que les causes que j'ai pas du tout pu... Enfin, cette espèce de vocation... à la question. Alors ça, c'est le boulot du psychiatre d'essayer de la chercher. Ça n'a jamais été le mien. Souvent des amis. Moi, j'ai constaté qu'ils devenaient fous. Beaucoup de futurs mathématiciens à la fin d'une classe de maths sup, ce qu'on appelait. Tout d'un coup, ils passaient un week-end tout seuls et puis, c'était la catastrophe. La cave se fissurait, puis ils se demandaient mais comment ça a commencé. Alors, c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas longtemps seulement, il y a 30 ans que je me vois déjà dans l'égarement, il n'y a pas longtemps seulement que sur une autoroute de ces grandes banlieues qui... Je venais d'avoir un chagrin de quitter quelqu'un, il venait de me quitter. J'ai pris une petite voiture et je me suis dit, mais est-ce que je vais continuer? Je veux bien continuer si j'ai commencé. Parce que si j'ai... Et la question c'était, pour la première fois, elle me venait vraiment... Pendant 30 ans, j'avais entendu cette question. Je crois que j'avais admiré, mais j'avais rien compris. Je veux bien commencer si je suis née, parce que si je ne suis pas née, autant prendre le mur d'en face. Parce que si je ne suis pas née, si je n'ai pas commencé, j'ai été balancée sur cette route, comme des êtres humains étaient balancés dans des wagons sur des rails, qui les menaient vers des lieux qu'ils n'avaient pas vraiment choisis. Donc il n'y a pas longtemps que cette... Et comment on peut passer du temps en face de gens qui sont dans l'égarement, en admirant leurs questions, ça serait comprendre.
Je crois que le plus bel égarement, c'est aussi une phrase de Malcolm Lowry dans sa correspondance, je crois qu'il avait écrit ça, ou dans un de ses livres, je ne sais plus, où il décrit un Anglais qui part en smoking, qui disparaît dans la jungle. C'est la plus belle image d'égarement que j'ai jamais lue.
Je lui dis figurer pour fissurer. Bon, alors figurer comme figure, figure comme miroir. Est-ce que le ciel dont vous parliez tout à l'heure, le ciel au-dessus du labyrinthe, fonctionne comme un miroir?
C'est un miroir terrifiant, hein, parce qu'il va multiplier comme ça les chemins qui eux-mêmes se multiplient. Si vous voulez, ça m'a... Le ciel, oui. J'ai envie d'incarner un petit peu le ciel, parce que le ciel est différent, par exemple, suivant les saisons. Alors, puisqu'on, je vois que vous êtes sensible quand même à la marche. Alors, je vais le ciel, par exemple. Enfin, si vous voulez, tout me stupéfie. Faire une promenade en forêt en automne. Vous voyez la lumière de la forêt qui traverse une clairière, qui vous tombe dessus. L'automne. Alors, si vous commencez dans ces promenades, d'abord, ce qui est bien dans les forêts, c'est que les gens les plus sûrs d'eux, les plus arrimés à l'évidence de l'existence, se perdent. Bravo pour les forêts. Ils se perdent, même en ramassant des champignons. Alors, cette lumière, comme ça, vous voyez des familles se promener dedans, des femmes mal habillées, tout ça, des vilains godillots, des sacs, des enfants. Pour les enfants, c'est souvent terrible de voir leurs parents comme ça, dans les forêts, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, dans cette lumière? Et en plus, je dirais que moi, je me demande, peut-être parce que j'ai beaucoup vu de gens fous, je me dis, mais comment c'est possible que cette lumière de la forêt, elle ait été la même pour Louis XI, par exemple? Et comme j'ai aucun rapport à Louis XI, parce que je ne suis pas psychotique, ça me gêne beaucoup d'être dans cette lumière. J'ai du mal à avancer, je peux la regarder jusqu'à l'éblouissement, pour les miroir. Je peux m'arrêter, essayer de la regarder, je ne peux plus bouger si je la regarde. Elle a de quoi vous arrêter, cette lumière. Alors ce miroir, bon, il y a des gens, je crois, qui ne lèvent pas les yeux. C'est pour ça que les champignons sont faits, je crois. Enfin, je crois que ce n'est pas pour ça qu'ils sont faits, mais comme ça qu'ils sont... Utiliser le miroir. Oui, je vois bien que vous. c'est curieux que je n'ai pas cette perspective-là. C'est comme si l'histoire de labyrinthe de miroir était pour moi rassurante par rapport à un ciel qui serait illimité, de profusion de lumière, qui poserait radicalement la question où mettre son corps dans cette lumière, alors qu'on n'a aucun rapport, je dirais, à l'histoire. Parce que c'est ça qui est frappant, pas de rapport à Louis XII. Et ça m'apparaît, j'avais pris un livre il n'y a pas longtemps, j'ai fait un cours, et il y a la fin d'un très beau texte de Proust sur la lecture, où il parle des deux colonnes sur la place Saint-Marc, et il dit ces étrangères, ce passé qui est là, du XIIe siècle, qui sont là à côté de nous, qui le coudoyons, immobiles, je l'abîme, palpables, virgule, au soleil. Et ce au soleil dit tout l'inapprochable, voyez, de ce XIIe siècle, et en même temps dit qu'on n'y est pas au soleil.
Mais est-ce que votre savoir ne vient pas de l'égarement des autres? Quand je parlais d'éthique tout à l'heure, vous sembliez refuser, repousser ma question. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contrôle a posteriori de l'égarement?
Vous auriez l'air de dire que nous serions des affreux qui profiterions du malheur des autres pour nous instruire, mais c'est vrai. C'est vrai.
Non, il y a le fou et le fou qui sait.
Mais nous savons tous, moi j'ai aucune honte à m'instruire de l'égarement de quiconque, y compris du mien propre. C'est la question éthique là-dedans, elle est précisément l'humanité, la question même de qu'est-ce qui fonde l'humanité de quelqu'un, elle est en grande partie contenue dans le fait de qu'est-ce qui fait la fixité du monde de chacun, et puis ce qui opère la défection de cette fixité. Question que chacun d'entre nous peut se poser pour lui-même, et si on peut parler d'intérêt de la pathologie, encore que je n'aime pas beaucoup la distinction que j'estime réactionnaire entre les bien portants et les malades. Mais enfin, l'un des grands intérêts de la pathologie, c'est que ça nous renseigne sur qu'est-ce que c'est qu'un bonhomme. C'est-à-dire que notre question, comme je le dis souvent, elle est dans le coup. On ne soutient pas cette question auprès d'un autre. Qu'il soit amené par contrainte ou tout ce qu'on voudra, on ne soutient pas cette question-là si soi-même, on n'est pas dans le coup de cette question de savoir qu'est-ce qui ordonne la réalité d'un homme. Et si cette question-là, elle ne nous intéresse pas comme praticien, il vaut mieux qu'on change de métier. Donc l'éthique d'un praticien, ces conditions, c'est d'abord cette question d'être capable de la soutenir et de la soutenir sur un mode tel qu'elle soit pour l'interlocuteur conduite sur un mode qui pour lui soit non pas une clôture de son être, mais une ouverture de ses questions. Et si on arrive à ouvrir les questions de l'interlocuteur, on se les ouvre pour soi-même.
Paul Virilio, est-ce qu'il y aurait une pensée du bunker?
Je crois qu'il y a une pensée de la crypte, c'est-à-dire du caché. L'architecture, c'est c'est l'art de recéler, c'est-à-dire de cacher. L'architecture, c'est toujours un peu un coffre-fort. Les premières architectures sont funéraires. Je parle d'architecture construite. Elles sont funéraires, donc elles cachent un corps. Et puis elles cachent un trésor, ce sont les pyramides. Les pyramides sont le modèle de l'architecture cryptique. On y cache à la fois le corps du pharaon et à la fois ses trésors. D'où les voleurs qui essaient de pénétrer dans le labyrinthe à trois dimensions de la pyramide. Donc le bunker ne fait que prolonger cette pensée cryptique, cette pensée cachée, cette pensée du codage et du décodage. Et je rappelle que toute la guerre s'est gagnée, la Deuxième Guerre mondiale, sur le décodage de la machine de codage allemand Enigma. Et l'informatique aujourd'hui est née de la machine de décodage Colossus, mise au point avec Alan Turing et von Neumann. C'est-à-dire que l'informatique est née de la volonté de décoder Enigma, la machine qui codait les messages du commandement allemand et qui a permis de vaincre les puissances de l'Axe. Ça a été fait et c'est l'origine même de l'informatique. C'est donc intéressant. Le cachet fait partie de la guerre. Donc pour moi, la recherche de l'espace militaire était la recherche d'un espace abstrait. Bien sûr, il y avait des objets très concrets que je photographiais, que j'analysais, et qui allaient m'amener à l'architecture, de la peinture à l'architecture, mais c'était surtout la recherche de la cohérence de cet espace-là. C'est-à-dire que j'étais conscient que la balistique provoquait un espace. L'art de la guerre, c'est l'art du mouvement. Et c'est l'art du mouvement des projectiles. C'est pas seulement l'art des soldats qui se déplacent dans les tranchées ou dans les labyrinthes, mais c'est aussi la balistique, c'est-à-dire l'organisation de ce jeu de l'espace avec des angles morts, avec des structures qui permettent d'interdire la vision, etc. Donc ma recherche était assez abstraite. Elle était celle de ce que l'on peut appeler l'espace militaire. Un espace où le regard est conditionné. Tout champ de bataille est un champ de perception. Les danses de guerre, les camouflages, les fumées, les fumigènes font partie de l'assaut. L'assaut organise le regard. Et je dirais, le géométrise. Viser, par exemple, c'est aligner le regard entre la mire et l'œilleton. C'est donc dresser le regard entre soi et sa cible. C'est donc un conditionnement du regard qui va d'ailleurs aboutir aux technologies contemporaines de missiles vidéo, d'acquisition par radar, etc. Donc je me suis beaucoup intéressé à toutes les technologies de radar qui étaient déjà des technologies de la téléprésence, de la virtualité, parce qu'un radar, c'est toucher à distance un objet et en avoir un écho. Donc je me suis intéressé à toute cette dimension qui était une dimension électromagnétique et ça a été pour moi un élément qui a illustré la psychologie de la forme, la phénoménologie de la perception. Pour moi, ça va ensemble. Merleau-Ponty, l'organisation du champ de perception militaire, les gestaltistes, Keller, Kafka, tout ça m'a, pour moi, formé un ensemble qui m'a passionné.
Un peu grandiloquente.
Oui.
Si Dieu est la cause de tout, l'égarement serait la cause de quoi ?
Et l'égarement serait cause que nous demandions, nous, comment faisons-nous pour marcher si droit ? Comment nous nous débrouillons pour ordinairement fonctionner avec des repères apparemment si stables et que quand nos rapports avec que nos rapports sont toujours frappés de la même tonalité. Il y a des gens, par exemple, la tonalité de leur rapport à l'autre est toujours frappée de cette idée que qu'est-ce qu'il me veut, il doit être malveillant, ou l'inverse, l'autre même nécessairement, c'est-à-dire que la tonalité du rapport à l'autre est toujours la même. Donc, puis de temps en temps, on sort de ça. Donc l'égarement, ça nous pose la question de savoir qu'est-ce qui donne cette tonalité assurée, ce ton de familiarité pour chacun d'entre nous, à son monde, alors que nous savons par ailleurs que c'est si facilement déconcertable. Donc ça pose directement la question de la structuration de nos repères ne doit rien, contrairement à toutes les balivernes qu'on raconte, à une neurophysiologie qui viendrait nous piloter avec certitude.
Enfin, vous quand même, vous avez beaucoup écouté, vous avez beaucoup observé, donc vous pouvez mettre des mots sur l'égarement. Par exemple, la cause de l'égarement peut être le cœur, ou le nom, ou l'identité, ou...
Le sexe. Oui, mais oui. Mais vous soulevez là des quelques repères qui font partie de la stabilité illusoire ou assurée de notre monde, le nom. Aucun d'entre nous, habituellement, ne se demande quelle est la fonction véridique de son patronyme. Ça semble aller de soi. Et puis on s'aperçoit de la fonction du patronyme quand, pour une raison ou une autre, le patronyme est soustrait, modifié, n'est-ce pas ? On parle du sexe. La stabilité du monde de quelqu'un est ébranlée quand son assurance quant à sa sexuation est titillée par quelqu'un qui lui dit « Mais... tu te dis femme ou homme, et qu'est-ce qui te le prouve ?» Et vous avez été mettre le doigt là directement sur des éléments dont le caractère d'évidence n'en a aucun. J'ai ce souvenir d'un homme qui avait divorcé et qui, comme c'est souvent le cas, quand il allait chercher ses gosses, se faisait interpeller par son ex-épouse sur le mode « En quoi es-tu un père ?» En quoi es-tu un père ? J'ai vu un jour cet homme déclencher un incendie. Puis il est allé voir les pompiers en disant « c'est moi l'incendiaire ». Alors on l'a traduit devant le procureur de la République, qui me l'a envoyé sous contrôle judiciaire parce qu'il avait l'air un peu égaré, justement. Alors il s'avérait la chose suivante pour cet homme, c'est que son père était mort quand il avait 3 ans. Son père était tuberculeux. Et il rendait visite à son père à l'hôpital. Et puis son père est mort devant lui d'une rupture d'un vaisseau pulmonaire, donc d'une inondation pulmonaire. Il s'avérait que ce garçon, donc il voit son père mourir, il s'avérait que ce garçon avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide les années précédentes, qui étaient toutes, c'est ce qui m'était apparu rétrospectivement, des tentatives de suicide par voie respiratoire. Sa femme l'avait chatouillé sur le point de savoir en quoi il était un père, il avait ouvert le gaz. Une autre fois, même conjoncture, il avait foutu des vieux journaux dans une armoire qui s'était mis à brûler, il avait failli s'asphyxier. Puis là, il avait foutu le feu à une maison, et puis une autre fois, il avait essayé de se pendre avec des fils électriques. Et à chaque fois, il a été réchappé. Mais le point commun de toutes ces tentatives de suicide, c'est qu'à chaque fois qu'on lui posait la question, que sa femme lui posait la question « En quoi es-tu un père ?», il répondait par « Un père est quelqu'un qui meurt par voie respiratoire. » Et donc, à chaque fois, les heures qui suivaient, il avait l'air complètement égaré. Et donc, sa question de mettre le feu, c'était sa réponse. « Un père, c'est quelqu'un qui meurt par voie respiratoire. » Alors. Ce n'était pas du tout quelque chose d'égaré, c'était une réponse extrêmement précise à la question de sa femme, en quoi es-tu un père ? Il ne pouvait pas y répondre selon les modalités habituelles, il y répondait selon la seule modalité qu'il avait à disposition.
Thank you.
Donc pour vous, le labyrinthe serait fait de lumière, de couloirs lumineux.
Mmh. Oui, alors là, bon, on revient à toutes les clés de voûte de la vision, c'est-à-dire la route, le couloir, la pièce, le mur. Alors, il faut revoir Charlot quand il s'égare dans le labyrinthe de verre. Quand il fait s'égarer la loi, plutôt. C'est beaucoup plus fort que de s'égarer. Il fait s'égarer la loi, c'est merveilleux. C'est beau. Mais je ne pense pas qu'une photo bougée soit un labyrinthe. Ça peut être un égarement dans le temps qui donne en fait ce démarrage vers l'infini qu'est la Madeleine de Proust, qui est le contraire de l'instant décisif. Hein? Donc même si je ne le revendique pas, je dois faire partie tout de même de la famille des égarés photographiques.
L'espace du bunker est un peu celui du crâne.
Oui, si on considère que le bunker est un casque. Quand on regarde de loin un bunker, pas tous bien sûr, on s'aperçoit qu'il ressemble à un home. Le home, c'est le casque des hommes, des chevaliers du Moyen-Âge, avec la visière fendue, vous la voyez. Or, il est sûr que le bunker en béton ressemble à un home de béton, à un casque. Et la fente de visée ressemble aux yeux. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des statues de l'île de Pâques. Beaucoup de bunkers font penser à l'architecture des chéloniens, c'est-à-dire des animaux à carapace. Donc, le bunker est un visage énigmatique qui vous regarde. Et je me souviens de la peur que j'avais en approchant d'un bunker, en le découvrant par hasard. Comme si c'était une tête coupée, posé sur le sol.
Et à l'intérieur, on trouve des compartiments, des couloirs, des escaliers.
C'est un labyrinthe, c'est-à-dire que nous avons deux espaces. Si on prend la batterie, par exemple, c'est-à-dire là où se trouve le canon, on a deux espaces. On a d'un côté où se trouvent les fusants, c'est-à-dire ce qui met à feu l'obus, et de l'autre côté, les obus, pour ne pas risquer l'explosion. Et on a au milieu une salle qui ressemble à un petit hôtel. Ça ressemble à un oratoire quand le canon n'est plus là, avec un embasement de béton qui ressemble à une table des sacrifices sur lequel se trouve le canon. Mais c'est un espace très étroit, c'est un espace oppressant. Et curieusement, c'est un espace qui est fait pour un climat artificiel, celui de la guerre. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, les explosions, les ébranlements qui faisaient bouger le bunker est fait pour pouvoir bouger sous les coups, il est équilibré par un radier, n'est pas fondé comme une tour. Ce climat-là rendait sécurisant la vie dans le bunker. Mais par contre, dès que le ciel était bleu, qu'il n'y avait plus aucun risque, l'épaisseur des murs, 1m80, 2m, pour d'autres endroits, c'est des 6 ou 7 mètres d'épaisseur, donne une sensation de claustrophobie qui fait partie de l'attrait du bunker. En plein été, rentrer dans un bunker tout noir, aller vers la fente de visée juste au-dessus de la mer, c'est se faire peur. C'est habiter un monstre. C'est entrer comme Jonas dans la baleine. Il y a là un plaisir de la claustration et un plaisir de l'effroi. Un tout petit mot, le chauffeur d'Hitler, savez-vous comment il s'appelait ? Schreck, effroi. Le chauffeur, le pilote d'Hitler, le conducteur de sa voiture s'appelait Schreck, effroi. J'ai trouvé qu'il y avait là une...
Qu'est-ce que vous pensez du travail du temps sur le bunker ? Dans toutes vos photographies, par exemple, on voit ces bunkers complètement en déséquilibre sur le sable, ou recouverts, ou redécouverts par le sable.
Il est sûr que comme ce sont des bâtiments qui sont équilibrés sur un radier, mais il faut entretenir le radier, c'est-à-dire qu'il faut recharger. Quand le sable coule, il faut le recharger. Or, bien évidemment, après la guerre, les bunkers ont été abandonnés, et donc ils ont glissé. Et ils sont devenus comme ils sont monolithes. Ils ne se sont pas déformés. Et donc, on a là des architectures à l'envers. Des architectures fantastiques, puisqu'on peut entrer par le plafond et sortir par le plancher. Enfin, c'est très étrange. Il y a là un sentiment de monde à l'envers. Il y a là un sentiment de ruine mais qui ne détruit pas l'œuvre.
Lacan se disait égaré. Vous croyez qu'il s'est perdu?
Si je réponds à la deuxième partie de la question, il me semble qu'il s'est un peu perdu avec les mathématiques. Là, il m'a semblé perdu.
Il a vu les nœuds non pas comme des sources d'égarement, mais plutôt comme des sources d'explicitation. Quand il exhibe fièrement le... Comment ça s'appelle le fameux nœud broméen en disant que les trois anneaux dont il se compose représentent le symbolique, l'imaginaire et quoi encore le réel, je suppose. Toute cette construction a pour but de sortir le patient, peut-être pas d'un égarement, mais en tout cas d'une certaine confusion pour lequel, avec le symbole, il espère l'extraire.
Maintenant, le risque de l'égarement, qui est une autre question, je crois absolument qu'il l'a couru. Parce que, j'ai envie de vous dire, ces prises de parole, la façon dont il prenait la parole, c'est comme le type qui s'arrête sur l'autoroute et qui dit que je vais continuer à me farcir un mur, il défonçait le sol. À partir de là, il n'était jamais évident qu'il puisse continuer. Oui, je crois qu'il l'a pris, ce risque. Je pense que vous me dites égaré et perdu. Or, c'est une opposition pour moi parce que pour les gens perdus, je crois que la question de l'égarement ne se pose plus.
Vous savez qu'il faut être deux pour penser un labyrinthe. Il y avait par exemple Minos et Dédale. Qui serait à l'origine du labyrinthe du Troisième Reich?
D'abord, Hitler était un homme qui avait peur de la mer. Était un homme qui n'allait pas sur l'eau. Donc les bunkers traduisent la crainte du tyran devant la fluidité de l'eau.
C'est un écran.
Devant, oui. Et ça, il l'a dit. J'ai envie de dire, si Hitler a perdu la guerre, c'est parce que, dans un premier temps, il a eu peur de la mer. Malgré la Kriegsmarine, il n'a pas osé traverser d'abord le débarquement d'Angleterre. Et donc, c'était un homme continental. En plus, la dimension féminine de la mer, sirènes de la mer.
Le labyrinthe par l'eau.
Le labyrinthe par l'eau l'a effrayé. Mais il y a d'autres raisons. D'abord, l'idée du Reich de 1000 ans. C'est très important que Hitler est un homme qui croit qu'il peut maîtriser la durée. C'est-à-dire que Hitler, avec les bunkers, veut pérenniser son règne. Il aurait voulu faire la même chose avec l'architecture civile, s'il avait pu. Il y a donc l'idée de cristalliser, de faire comme une pyramide, quelque chose qui passera à travers le temps et qui sera pérenne, qui survivra au temps, aux histoires. C'est une absurdité totale. La politique, y compris la politique tyrannique, c'est l'art du possible. Donc, le mur de l'Atlantique, on n'a pas le droit d'aller au bord de la mer parce qu'il y a un mur.
Il y a un message.
Il y a un message, c'est-à-dire que vous êtes bien enfermé et en même temps vous êtes protégé. À la fois Vous êtes dans un champ clos, vous êtes dans un camp, hein, c'est clair. Vous pouvez pas aller à la mer, donc vous êtes dans un camp. Il y a des limites autour du continent, on peut pas accéder à la mer. Et en même temps, vous êtes protégé. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension raquette. On vous protège.
Le livre vous égare ?
Il m'égare dans le temps, parce que c'est très long à lire. C'est vrai que dans le temps, on s'égare. Quand on lit un livre dans le train, on s'égare complètement dans le temps et on arrive Gare de Lyon, on ne sait plus où on est.
Est-ce que parfois le plus simple ne vous égare pas ? Je pense par exemple à une pièce dans une maison, la maison dans un jardin, et le jardin contre un arbre.
Visuellement, pour le cas d'une pièce, on est égaré par ni l'espace ni le temps, mais par la différence de la manière dont la lumière rentre, suivant les heures. Je crois que c'est même pas la peine de changer les meubles de sens pour faire croire que la pièce a changé. Il suffit de venir à une heure différente.
Comment la lumière doit-elle entrer pour vous ?
Je sais pas. Je sais que la lumière que je vois beaucoup, c'est la nuit quand je me réveille. Parce que je suis assez insomniaque. Et c'est une lumière que je vois les choses quand on ne les voit pas. Comme un chat, un peu. D'ailleurs, ça m'arrive de me lever, puis de prendre l'appareil et de faire une photo à 25 secondes de temps de pause d'une chaise. Parce que je l'ai vue.
L'égarement de Lacan.
C'est le premier mot qui me vient, je ne sais pas si c'est le bon, c'est d'une extraordinaire avidité. Lacan était quelqu'un, quand je rentrais dans son bureau, je n'avais pas du tout envie de parler, parce que je l'appelais le docteur Eros, c'était un homme de la Renaissance, une extraordinaire avidité. Donc c'est peut-être toujours un risque, l'avidité, l'avidité de lecture. Il n'y avait pas un livre qui sortait, on ne pouvait pas lui nommer un livre sans qu'il envoie Gloria tout de suite l'acheter à la librairie la plus proche. L'avidité pour la musique, le dernier texte, les mathématiques, la linguistique, et je je sais pas si cette étonnante avidité au XXe siècle était pas en même temps le risque d'un égarement. C'était le risque de faire une moisson au terme d'une multiplication infinie de chemins. Hein, retomberait ce qui retomberait. Alors, il s'est pas tenu à l'autoroute. D'accord. C'était ça aussi qui...
Vous avez une voiture ?
Non.
Et combien de rétroviseurs ?
Bonne question. J'ai un problème à regarder... pour regarder dans le rétroviseur.
Avant, il y avait un rétroviseur, oui. Puis il y en a eu deux, maintenant il y en a trois.
C'est vrai, je peux vous dire qu'au maximum, j'arrive à regarder dans un rétroviseur que j'ai...
Vous voyez vous, ou bien vous voyez ce qui est derrière ?
Eh bien, quelquefois, comme beaucoup de femmes, je me vois moi. Je me dis, j'ai les yeux fatigués, le rimmel qui coule. Ou alors, ce qui est plus dangereux encore, je vois la beauté du paysage.
Inversé.
Parce que je dirais volontiers de moi que je suis égarée. Donc étant assez égarée, ça ne me frappe même pas que ce soit inversé.
Nuit magnétique, l'égarement. Première partie, la peur est autour de la maison. Par Jean Dève et Vincent Beck.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel,
Marie de Pusset,
et venant de nulle part,
Bernard Plessu,
surgit un air,
Marcel Tchermak, Paul Virilio,
René Thom.
Les ailes déployées.
Réalisation.
Lentement.
Michel Mestre.
Je le vis tout.
Bernard Charron.
Près de moi.
Demain.
Dans un bruit.
L'égarement. Deuxième partie.
Comme tombé du ciel.
Dans le labyrinthe.
L'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant. En tremblant des étoiles et des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles, l'aigle noir dans un bruit.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 janvier 1994. À suivre.